En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
La séance solennelle annuelle de l'Académie française se tient en ce jeudi 1er décembre 2005 sous la présidence de Monsieur René de Obaldia. Vous allez entendre, dans l'ordre des lectures, Monsieur Frédéric Vitou, directeur en exercice, qui prononcera un discours sur les prix littéraires décernés par l'Académie. Puis Madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, qui s'exprimera sur Corneille. Et enfin, Monsieur René de Obaldia, qui prononcera le traditionnel discours sur la vertu. Mais tout de suite, après les tambours de la garde républicaine, le président Monsieur René de Obaldia ouvre la séance.
La séance est ouverte. La parole est à Monsieur Frédéric Vitou.
Nous aimerions tout particulièrement cette année saluer et remercier les jeunes filles de la Légion d'honneur qui nous font depuis fort longtemps le plaisir d'être présentes sous la coupole à l'occasion de notre séance publique annuelle. À quelques jours près, nous célébrons en effet le bicentenaire de leurs écoles, fondées par Napoléon Bonaparte le 15 décembre 1805, très précisément. Cette date méritait d'être rappelée avant la lecture de notre palmarès. Messieurs, quand le baron Pierre de Coubertin songea à redonner vie aux Jeux Olympiques de l'Antiquité, il envisagea tout d'abord, paraît-il, d'y introduire des épreuves d'art, plastique et de poésie. Assez vite, sagement sans doute, il renonça à ce projet. On se prend tout de même à rêver au spectacle d'une finale olympique de haïku ou de sonnet pour évoquer des formes brèves, autrement dit des épreuves de rapidité. Les athlètes du continent américain, les maîtres incontestés de la vitesse, auraient-ils en ce domaine triomphé aussi facilement des Japonais ou des Français? Et que penser des compétitions d'endurance, l'épopée par exemple, qui est un peu le 10 000 mètres ou le marathon de la poésie? Quel versificateur de fond, comme on parle d'un coureur de fond, aurait pu dans ces conditions l'emporter? Il peut paraître cruel de prononcer le mot d'olympisme ici même, à Paris, ville candidate encore il y a quelques mois à l'organisation des Jeux de l'année 2012. Notre intention, en vérité, est d'être réconfortant. Non, nous n'organiserons pas les Jeux olympiques d'été dans un avenir proche, mais nous célébrons déjà chaque année à l'automne, en ce lieu qui vaut tous les stades du monde, les cérémonies protocolaires des Jeux académiques, et le fantôme du baron Pierre de Coubertin devrait s'en féliciter sans réserve. Nos épreuves ne sont pas moins nombreuses que les disciplines olympiques et peut-être un peu plus essentielles que le badminton ou le lancer du marteau féminin. La philosophie, l'essai, la nouvelle, le roman, la critique, la poésie, l'histoire, la défense de notre langue et de la francophonie font ainsi l'objet d'âpres compétitions où nous décernons des prix, des grands prix et même des médailles qui n'ont rien à envier à celles qui sont ailleurs d'or, d'argent ou de bronze. Il n'est pas facile de prendre connaissance de centaines et de centaines d'ouvrages et c'est pourtant notre mission première à l'Académie, au sein de nos différentes commissions, au même titre que les travaux de notre dictionnaire. Il est délicat de juger, d'établir des hiérarchies, d'écarter certains auteurs au profit d'autres, nous le savons. Aucune toise, aucun chronomètre électronique, aucune photo ne nous aide à départager nos concurrents. Les discussions, voire les disputes entre nous, sont donc tout naturellement vives. Découragés, certains d'entre nous auraient peut-être envie de s'écrier parfois comme Jules Renard, On se trompe toujours sur ses contemporains, ne les lisons donc pas. Ce serait se persuader à bon compte que la postérité du moins est infaillible, une sottise qui faisait déjà sourire Chateaubriand. Il y a des passions, des engouements, des erreurs de distance, comme il y a des passions, des erreurs de proximité, disait-il. Que nous reste-t-il alors ? Notre ferveur et aussi notre humilité, notre confiance dans nos choix, nos récompenses, nos coups de cœur, et aussi notre intuition que d'autres auteurs auraient mérité d'être également salués et récompensés. Vous pouvez vous lever.
À la fin de la lecture du palmarès des prix littéraires 2005 de l'Académie française, palmarès lu par Monsieur Frédéric Vitou, la parole a été donnée à Madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française.
La langue française restait à jamais dans la médiocrité sans un de ces génies faits pour changer et élever l'esprit de toute une nation. C'est le plus grand de nos académiciens, c'est Corneille seul, qui commença à faire respecter notre langue des étrangers, précisément dans le temps que le cardinal de Richelieu commençait à faire respecter la couronne. L'un et l'autre portèrent notre gloire dans toute l'Europe. C'est Voltaire qui, prenant séance à l'Académie, rendit ainsi hommage à Corneille. Le 4e centenaire de la naissance de Corneille sera célébré en 2006. En ces temps où l'Académie déplore que la langue française soit malmenée par ceux dont elle est le bien le plus précieux et menacée dans son influence extérieure, évoquée sous la coupole celui qui emporta la gloire dans toute l'Europe, n'est-ce pas la meilleure manière de dire notre foi dans l'immortalité de la langue française et de son génie ? Peut-on parler de Corneille brièvement ? Son neveu Fontenelle, qui fut aussi son premier biographe, a écrit: il avait l'air fort simple et fort commun, toujours négligé et peu curieux de son extérieur. Il parlait peu. Pour trouver Corneille, il faut le lire. Suivons Fontenelle. Abandonnons l'homme pour l'œuvre grâce à laquelle il fut considéré en son temps comme l'un des quatre plus grands poètes de l'humanité, avec Homère, Virgile et Le Tasse. Et de cette œuvre immense, retenons trois versants. Les comédies, symbole d'une jeunesse éblouissante et fantasque, le Cid et la rencontre avec l'Académie, enfin Polyeucte et le grand poète chrétien. En 1630, la France sortait de la guerre civile et des conjurations. Le sentiment de paix l'emportait, même si la paix extérieure devait se faire attendre jusqu'au traité des Pyrénées. À la cour, un jeune roi, une jeune reine représentait une nouvelle génération avide de vivre et de s'amuser. C'est le triomphe de la jeunesse. C'est alors qu'au cœur du Marais, au Jeu de Paume, la troupe de Mondory, rivale de celle de l'Hôtel de Bourgogne, présenta une comédie, Mélite, dont le succès fut immédiat. L'auteur en était un jeune inconnu de 23 ans, Pierre Corneille. Ses portraits ont fixé l'image d'un homme âgé, sévère. Mais le Corneille que Paris découvre alors incarne la jeunesse, la fantaisie. Il apporte sur scène un univers irréel où le romanesque n'obéit ni aux règles ni à la vraisemblance, mais enchante tout simplement le spectateur. Comme toutes les pièces de ce temps, Mélite est une pastorale, mais, et c'est là sa nouveauté, Corneille l'a transposée en ville et l'a dotée d'un langage moderne, celui des honnêtes gens, dira Fontenelle, c'est-à-dire la langue de la jeunesse de cour. L'intrigue en est affreusement compliquée. Un prétendant dédaigné montre à son rival heureux de fausses lettres de sa bien-aimée. Cet artifice entraîne une série de catastrophes et, croit-on, la mort des héros. Mais ce n'est qu'une apparence. Par un heureux retournement, tout finit par un double mariage. Mélite consacre le triomphe de l'amour et la magie de la présence constante chez Corneille, écrit Jean Starobinski. Quand Mélite paraît à sa fenêtre, Tircis, jusqu'alors indifférent et attaché à sa liberté, succombe à l'éblouissement. Dès lors, ce couple surmontera toutes les épreuves qui menaçaient de tourner en tragédie. Mélite et Tircis forment le premier couple d'élus de l'amour dont Marc Fumaroli a superbement montré qu'il est au cœur de toute l'œuvre de Corneille. Le couple, élu en vertu d'une grâce amoureuse réservée aux grandes âmes, domine toutes les épreuves alors que ceux qui n'ont pas cette grâce sont expulsés du paradis pastoral. Ainsi, la comédie légère laisse-t-elle entrevoir, derrière les illuminations du bonheur, un monde plus grave, celui des échecs et parfois du malheur. Novice dans l'art de la comédie, Corneille fut accusé d'en ignorer les règles. « Je ne savais pas alors qu'il y en eut », reconnaît-il. Mais il décide aussitôt de s'y conformer et d'écrire une pièce régulière en 24 heures, pleine d'incidents, dans un style plus élevé, et conclut-il, « J'y réussis parfaitement ». Cette réussite, c'est Clitandre, sa deuxième pièce, qui rassemble dans le temps imposé l'action la plus confuse que l'on puisse imaginer. On ne peut résumer en quelques phrases les intrigues extravagantes qui se nouent autour du couple élu Calliste Rosidor entouré de rivaux, Clitandre amoureux de Calliste et Doris de Rosidor, dont le couple élu triomphera finalement. Rien ne manque ici. Duel, flot de sang, enlèvement, viol, œil crevé, supplice, assassinat. La pièce est un mélodrame de cap et d'épée où les héros se déguisent en bergers, se dupent, se confondent les uns les autres et s'entretuent sans retenue. Corneille avouait que si le spectateur manquait un instant d'attention, il risquait fort d'y perdre l'intelligence de la suite. Pour Voltaire, cette pièce était un mélange de pastoral et de tragédie de Shakespeare. Mais concluait-il, Shakespeare ne lasse jamais le spectateur, alors que Clitandre le fait périr d'ennui. Propos fort injuste. Si les spectateurs pouvaient se perdre dans ces rebondissements invraisemblables, ils ont sans doute regardé Clitandre avec la passion angoissée de nos contemporains pour les films d'un Alfred Hitchcock. Avec La Veuve, Corneille négligea une fois encore la règle des 24 heures. Les cinq actes de la pièce se déroulent en cinq journées. Ici encore, un couple élu, Clarisse Philiste, est victime d'innombrables déboires, dont un enlèvement, organisé par un imposteur, Alcidon, assisté d'une nourrice, truculente et fourbe, rôle qui sera joué par un homme. Mais pour finir, tout s'arrange. On cria au chef-d'œuvre et tout Paris répéta après Méret « Oh Dieu, que ta Clarisse est belle et que de veuves à Paris souhaiteraient d'être comme elle pour ne pas manquer de mari. » Dans cette pièce, moins haute en couleur, moins ponctuée peut-être de coups d'éclat que Clitandre, un ton nouveau se fait entendre, une certaine mélancolie, l'accent mis sur les amants malheureux. Les peines personnelles de Corneille, séparées de son amour de jeunesse par des considérations matérielles, planent sur cette comédie où le thème de l'inégalité des fortunes sous-tend l'action. Deux vers, dits par la mère de Philiste, font écho à l'amertume du poète. Le bien en ce siècle est d'une grande douceur, étant riche, on est tout. Trois comédies encore. La Galerie du Palais, la suivante, la Place Royale, accentuent un ton grinçant qui altère progressivement l'harmonie de l'univers pastoral. L'argent, l'inconstance, les jeux de la coquetterie troublent l'amour et menacent, voire condamnent, le bonheur des élus. Marivaux perce déjà dans ses pièces et le romanesque y dissimule une certaine dureté. L'illusion comique, que Corneille qualifiait d'étrange monstre, annonce, elle, la manière de Pirandello. Trois pièces s'y imbriquent. Pris d'amant, recherche désespérément son fils Clindor qui a disparu. Le magicien Alcandre va lui montrer ses aventures sur un écran d'ombre où surgissent des fantômes. Clindor y apparaît en compagnie d'un spadassin burlesque, vantard et poltron, Matamor. Soudain, le spectacle tourne au drame. Florilame, un mari jaloux de Rosine, poignarde Clindor, fait assassiner sa propre femme qui voulait séduire Clindor, tandis qu'Isabelle, épouse de ce dernier, succombe au désespoir et, fou de douleur, le père sanglote. Mais le magicien fait alors éclater la vérité. Ce que Pridamant a cru voir n'était qu'une pièce jouée par son fils, devenu comédien, qui se relève. Ces trois pièces emboîtées, théâtre dans le théâtre, constituent une féerie d'une fantaisie et d'une grâce ravissante. Certes, Matamor est ridicule. Il n'en préfigure pas moins des héros cornéliens, mi-sublimes, mi-comiques, tel Don Diègue et le vieil Horace, et peut-être aussi Don César de Bazan, car Victor Hugo, souvenons-nous-en, admirait Corneille. Toutes ces comédies ont reflété l'atmosphère de paix civile qui régnait en France sous Louis XIII et la vie de Paris, marquée par la joie de vivre et l'insouciance. Le théâtre de Corneille, applaudi par une jeunesse fougueuse, a surtout reçu le soutien de l'hôtel de Rambouillet, c'est-à-dire celui des femmes de qualité qui, pour la première fois, ont osé se rendre au spectacle. Ce sont elles qui ont assuré son succès. Mais en 1636, la paix s'effrite. Les croquants soulèvent le Périgord et les Habsbourg prétendent dominer l'Europe. Les partis se mobilisent alors pour ou contre les choix politiques de Richelieu, parti espagnol rassemblé autour de la reine fille d'Espagne, parti d'opposition à l'Espagne. Les grands se dressent contre Richelieu qui veut renforcer l'État. C'est dans cette atmosphère plus tendue que l'on joue le Cid en janvier 1637. Le triomphe de la pièce fut immédiat. Tant de spectateurs s'y pressaient qu'il fallut, contre tous les usages, les placer dans tous les recoins du théâtre et même sur la scène. Nul besoin de raconter le Cid, il est dans toutes les mémoires, mais il faut dire comment il fut entendu par les spectateurs de ce temps. Le Cid est avant tout le choc de deux temps historiques et de deux générations. Le couple Chimène-Rodrigue incarne la jeunesse de l'époque de Louis XIII. En face de ce couple élu, se dressent les guerriers du temps d'Henri IV, qui, au nom des services rendus, prétendent imposer leur autorité à leurs enfants, mais aussi au roi. Conflit du père et du fils. Don Diègue exige de Rodrigue qu'il fasse sienne sa querelle et remplisse un devoir barbare. Meurs ou tue. L'injonction est inacceptable à une génération qui a connu la paix. Le Cid montre aussi l'arrogance des grands à l'égard du roi. À Don Arias, qui lui oppose le pouvoir du souverain, le comte crie son dédain d'un sceptre qui, sans moi, tomberait de ses mains. Et il ajoute « Désobéir un peu n'est pas un si grand crime. » En tuant le père de Chimène, c'est le roi que Rodrigue débarrasse en dernier ressort d'un grand bien encombrant. Et l'on comprend que le roi mette peu d'empressement à satisfaire l'appel à la justice de Chimène, elle-même déchirée entre ce que lui commande la décence et son amour pour Rodrigue. Le roi et Chimène se jouent ainsi à l'intérieur de la pièce une comédie des apparences. Dans leur dialogue, tout sonne faux, la rigueur du roi et les cris de Chimène. Le Cid pose aussi la question espagnole qui vient de ressurgir. Les Espagnols ont menacé Paris. Le récit par Rodrigue de sa victoire sur les morts ne fait-il pas écho au récit de la reprise de Corbie ? Et les spectateurs de s'interroger. Cette pièce serait-elle à la gloire de l'Espagne, dont elle présente une image éblouissante, ou des vainqueurs de Corbie ? Le théâtre français a toujours été séduit par l'Espagne. Une Espagne joyeuse, ponctuée de chants d'amour et de combat, royaume de la jeunesse et d'une certaine folie. On retrouvera cette fascination chez Victor Hugo et chez Paul Claudel. Le Cid clôt le cycle des œuvres de jeunesse de Corneille, dont il reprend tous les thèmes. L'amour est le véritable moteur de la pièce, mais il ne triomphe qu'au prix d'une victoire totale du héros dans l'épreuve qu'il a dû affronter. Le bonheur de Chimène et de Rodrigue dépend de l'héroïsme de ce dernier, qui, en triomphant, réconcilie deux ordres, celui de l'amour, celui de la loi et de la cité. C'est dire que Corneille n'ébranlait pas, loin de là, l'ordre établi. Et pourtant, dans la querelle qui naît en 1637, l'ordre public et la morale au théâtre lui seront opposés. Scudéry, auteur moins heureux que Corneille, jaloux de son immense succès, lança le débat. Il accusa Corneille de plagiat. Grief étrange, en un temps où tout auteur pillait sans scrupule les œuvres du passé ou celles des étrangers. Il brandit aussi l'irrespect des règles. Certes, 24 heures ne pouvaient enserrer toute l'action du Cid. Mais Guez de Balzac, farouche partisan de Corneille, écrira à Scudéry, dans une lettre dont tout Paris s'enchanta, « Considérez, monsieur, que toute la France entre en cause avec lui. C'est quelque chose de plus que d'avoir fait une pièce régulière. » Les critiques portaient aussi sur le fond. Peut-on tout dire au théâtre ? Les mauvais exemples ne sont-ils pas contagieux ? A-t-on le droit de divertir au récit de monstruosité ? Le poète ne doit-il pas sacrifier le vrai à la vraisemblance ? Et Chimène, fille dénaturée, impudique, n'était-elle pas un personnage trop détestable pour être proposé aux applaudissements du public ? Scudéry en appela à l'Académie, lui demandant d'être le tribunal d'un étrange procès. Tâche inattendue et embarrassante pour la compagnie tout juste fondée par Richelieu. Ses statuts ne lui permettaient de juger d'un ouvrage qu'avec l'accord de l'auteur. Corneille consentit du bout des lèvres, laissant entendre qu'il se soumettait à une volonté supérieure à la sienne, supérieure aussi à celle de l'Académie, celle de Richelieu, pensait-il. Pressé de juger, l'Académie réagit par un texte intitulé « Sentiments de l'Académie française sur le Cid », dont Sainte-Beuve écrira dans les Nouveaux Lundis que, placé entre le cardinal de Richelieu qui distribuait des pensions et le public qui donne la considération, les académiciens s'en tirèrent dignement. Le jugement de l'Académie, écrit-il, fut très supérieur aux pamphlets consacrés au Cid. Voltaire puis Sainte-Beuve se sont interrogés sur les sentiments du cardinal dans ce conflit. Pélisson, premier historien de l'Académie, évoqua une jalousie d'auteur et Fontenelle écrivit « Quand le Cid parut, le cardinal en fut aussi alarmé que s'il avait vu les Espagnols devant Paris. » Corneille crut certes à l'hostilité du cardinal, bien qu'il fût pensionné par lui et que son anoblissement, coïncidant avec le triomphe du Cid, avait très probablement été approuvé par lui. Mais lorsque le débat sortit des limites de la bienséance, c'est de Richelieu que viendra le coup d'arrêt. Plutôt que de l'imaginer jaloux des succès du poète, mieux vaut avec Voltaire retenir des raisons politiques. L'autorité de l'Académie naissante d'abord. Le cardinal l'avait fondée, et en lui confiant le soin d'arbitrer une querelle littéraire qui faisait grand bruit, il consacrait son magistère dans le domaine de l'esprit. La question espagnole mérite aussi de figurer dans ses explications. Richelieu a pu s'alarmer de voir le parti espagnol applaudir bruyamment le Cid, saluer en Rodrigue une incarnation de l'héroïsme castillan. Autant d'hommages rendus à l'Espagne et à la reine de France, autour de laquelle se rassemblaient tous ses adversaires. Corneille livra son sentiment sur cette affaire dans l'épître dédicatoire de la suivante. « Le premier but du théâtre, écrit-il, est de plaire à la cour et au peuple, et non aux grands ministres et aux académiciens. » Mais la querelle s'éteignait déjà. Corneille attendra cependant que le cardinal eût disparu pour faire la paix avec l'Académie. Auréolé du succès du Cid, puis d'Horace et de Cinna, il y posa alors sa candidature. L'Académie fut-elle effrayée de cette gloire qui risquait d'éclipser celle de certains de ses membres ? Battue à deux reprises par d'insignifiants rivaux, Corneille fut élu triomphalement en 1647. Il avait alors 41 ans et pendant 37 ans, il participa très activement aux travaux de la compagnie dont il devint doyen d'élection. Le Cid fut à la fois l'apogée de la jeunesse de Corneille et l'a dû à cette jeunesse placée sous le signe de la fantaisie et de la féerie. Il se tourne ensuite vers l'histoire romaine, se soumet aux règles et invente le héros cornélien. Cinna transfère la pastorale à Rome, Horace aussi, et ces deux pièces mêlent le royaume politique à celui de l'amour. Puis vient Polyeucte. Corneille ajoute alors à son œuvre une nouvelle dimension, celle du mystère chrétien. Polyeucte fut représenté 5 ans après le Cid. Lu d'abord à l'hôtel de Rambouillet, la pièce y fut applaudie. Mais ce tribunal des affaires d'esprit, comme on l'appelait, manifesta aussi des réserves que Voiture vint exposer à Corneille. Le christianisme, lui dit-il, en a fort déplu. Le théâtre des dévotions était pourtant alors fort en vogue. Fontenelle et après lui Voltaire ont imputé les critiques de l'hôtel de Rambouillet à l'épisode des idoles brisées. La destruction des idoles, interdite par des évêques, n'était-elle pas un défi à l'ordre et aux lois ? 3 siècles plus tard, Paul Claudel écrira « Polyeucte n'est qu'un fier à bras grotesque et ce n'est pas avec des tirades et des rodomontades imbéciles qu'on affronte l'enfer ». La pièce se situe pourtant, comme l'a montré Marc Fumaroli, dans la continuité de la vision cornélienne du couple. La pièce commence, écrit-il, comme la place royale, et par où finissait Cinna, le bonheur de deux élus, Polyeucte et Pauline, au sein de la Pax Romana. Pauline conserve certes le souvenir nostalgique de ses vers, qu'elle avait aimé à Rome, et que son père Félix avait refusé en raison de son peu de fortune. Convertie au christianisme par son ami Néarque, Polyeucte est saisie d'un élan qui le conduit à vouloir tout briser, les idoles de la religion officielle de Rome et son bonheur avec Pauline. Peggy, à qui l'on doit une magnifique analyse de la pièce, a montré qu'elle prend appui sur toute l'œuvre antérieure de Corneille, le Cid, Horace, Cinna. Comme le Cid, Polyeucte incarne la jeunesse, la chevalerie, mais une chevalerie de la sainteté. Comme Horace, qui a mis son héroïsme au service de la cité romaine, Polyeucte sert la cité, mais la sienne est spirituelle, éternelle. C'est la cité de Dieu. Comme Cinna, il revendique la grandeur de Rome, d'une Rome pacifiée, fondée sur le droit, la loi et la clémence d'Auguste, cette Rome que Sévère incarne, mais à laquelle Polyeucte oppose la loi du Christ. Polyeucte est une pièce chrétienne, dominée par la grâce qui accompagne le héros jusqu'au terme de son existence et au-delà, puisque cette grâce ira aussi à Pauline. Polyeucte est, Peggy l'a écrit, un drame chrétien par la place qui tient la grâce. Mais aussi parce que la pièce est centrée sur l'amour conjugal, sur le mariage, symbole de l'union de l'âme chrétienne à Dieu. Pauline, dont l'amour rayonne, que Polyeucte a repoussé au nom d'un amour plus haut, annonce les héroïnes de Claudel, Marthe, Signe de Coufontaine et Donia Proès. Avec la grâce et le mariage, la troisième composante de cette pièce chrétienne est l'intercession et la communion des saints. L'Église, même inscrite dans le temps et dans l'espace, est une communauté spirituelle qui rassemble les siens. Elle est Église militante, celle de la terre où les fidèles doivent faire leur salut. Le baptême y a fait entrer Polyeucte. Elle est Église souffrante, et Polyeucte y est entré par son martyre. Elle est surtout Église triomphante pour ses membres, entrés dans la possession divine. Polyeucte, martyr, entre dans l'Église triomphante, purifiée par ses souffrances, et par là, il peut intercéder pour celle qu'il aime. Dans l'enthousiasme de la conversion, il avait d'abord oublié Pauline, et l'avait confiée à Sévère. Mais l'amour conjugal l'emportant, il veut partager son bonheur avec elle, dans la gloire de Dieu. Toute la portée spirituelle de la pièce est inscrite dans sa prière à Pauline. Mais si dans ce séjour de gloire et de lumière, ce Dieu tout juste et bon peut souffrir ma prière, s'il daigne écouter un conjugal amour, sur votre aveuglement il répandra le jour. Seigneur, de vos bontés, il faut que je l'obtienne. Elle a trop de vertus pour n'être pas chrétienne. Écoutons encore Peggy. Ce qui fait la grandeur de cette pièce et de cette intercession, c'est qu'au premier plan, elle est d'abord une prière ordinaire, la prière d'un mari chrétien pour sa femme infidèle. Et au deuxième degré, il prie déjà pour sa femme comme un martyr dans le ciel, prie pour sa femme restée sur la terre. Comme tous ceux qui sont partis, comme tous ceux qui sont arrivés, prie pour tous ceux qui sont restés. C'est l'office de Saint Polyeucte. C'est l'Église triomphante qui prie pour toute l'Église militante et pour l'Église souffrante. Le couple séparé sur la terre va se reconstituer en Dieu, dans une nouvelle cité qui, par la grâce, inclut tous ceux que la communion des saints, leur intercession, va sauver. Les mérites de Polyeucte assurent le salut de Pauline, mais aussi celui de Félix, et bientôt, peut-on imaginer, de Sévère. Le public ne partagea pas les réserves de l'hôtel de Rambouillet, et son enthousiasme assura à la pièce un succès durable. Voltaire en conclut que l'assemblée de l'hôtel de Rambouillet, comme les censeurs du Cid, s'était reposée sur la raison pour juger Polyeucte, alors que le public cédait au sentiment, à l'émotion, à la joie de retrouver l'univers chrétien qui lui était familier. En 1650, au sommet de la gloire, Corneille subit pour la première fois un échec. Pertrarite ne sera représenté que deux fois, et même une seule, suggère Voltaire. Les difficultés matérielles s'accumulent aussi. La Fronde le prive de sa charge de procureur des États de Normandie et de la pension que lui versait Mazarin. Il s'enferme alors pendant 7 ans, dans le silence, pour se consacrer à la traduction de l'Imitation de Jésus-Christ. Il traduit aussi l'Office de la Sainte Vierge et quelques poésies latines que l'on chante dans les églises. Si elle est la part oubliée de son œuvre, l'Imitation parachève un portrait de Corneille, qui, dans un itinéraire allant de Polyeucte aux traductions et aux prières qu'il compose pour dire sa foi, s'impose comme le grand poète chrétien des lettres classiques. Après cette période de retraite, il reviendra encore au théâtre, mais il doit alors partager le succès. Avec son frère Thomas d'abord, auteur d'innombrables pièces auxquelles on fit l'accueil que connut Corneille le Grand jusqu'à Polyeucte. Et surtout, avec son véritable rival Racine, dont la gloire paraît soudain obscurcir la sienne. Pourtant, c'est à Racine qu'il faut emprunter l'ultime jugement sur l'apport de Corneille aux lettres françaises. Recevant son frère Thomas, élu à l'Académie au 14e fauteuil que Corneille avait occupé, il lui dit « Vous savez en quel état se trouvait la scène française lorsqu'il commença à travailler? Quel désordre! Les auteurs aussi ignorants que les spectateurs, la plupart des sujets extravagants et dénués de vraisemblance, point de mœurs, point de caractère. Inspirés d'un génie extraordinaire et aidés de la lecture des anciens, il fit voir sur la scène la raison, mais la raison accompagnée de toute la pompe, de tous les ornements dont notre langue est capable. Il accorda heureusement le vraisemblable et le merveilleux. » Racine a tout dit. Corneille, le plus grand des classiques, fit naître un nouveau théâtre. Il sut dire dans une langue éblouissante le réel, mais il fit aussi surgir la légende derrière l'apparence des choses, conviant les spectateurs à discerner les signes mystérieux dont l'univers était rempli. La fusion du vraisemblable et du merveilleux, c'est là tout Corneille. C'est la révolution que lui doit le théâtre classique. Peut-on mieux conclure qu'en pastichant Boileau, enfin, Corneille vint.
Mesdames et messieurs, je dois me rendre à l'évidence, c'est mon tour. Je veux dire que, suivant la tradition établie à l'Académie française, et bizarrement, de nos jours, toute tradition prend à mes yeux l'allure d'avant-garde, je suis invité, après main de mes illustres confrères, à discourir de la vertu. Si nous ouvrons le dictionnaire de la conversation, paru dans les années 1830, qui se définit comme un inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables à tous, nous pouvons lire au mot discours : la première vertu d'un discours est de ne pas s'étirer au-delà de l'ennui. Aussi, malgré l'ampleur du sujet, je vais tendre à ne point m'étirer. Permettez-moi d'abord, en guise d'ouverture, de vous conter un apologue. Cela se passe aux Indes. Un sage, particulièrement vénéré, visage émacié, regard venu d'une autre planète, barbe touchant terre, a élu domicile au pied d'un somptueux palétuvier. De tous les horizons, on vient le consulter. Voici que s'approche de lui un vieil homme. « Auguste vieillard, interroge le sage, pourquoi t'avances-tu vers moi ? Pour connaître si mon désir de recommencer ma vie est légitime. As-tu été vertueux dans ta vie ? Maître, je le fus. Alors, pourquoi veux-tu recommencer une chose aussi triste qu'une existence vertueuse ? Rassurez-vous, mesdames et messieurs, je ne voudrais point faire rougir les mânes de monsieur de Montyon. D'ailleurs, comment faire rougir des mânes ? auquel, par sa générosité, son inclination à secourir les veuves et les orphelins, nous nous devons non seulement de récompenser la vertu, mais aussi d'exalter Icel. Soyons réalistes. C'est en l'an de grâce 1783 après Jésus-Christ que Antoine Jean-Baptiste Robert Auget, baron de Montyon, chancelier honoraire du comte d'Artois, oui, le riche, très riche baron de Montyon, ici me revient à l'esprit le mot quelque peu cruel de Boileau, la vertu sans argent est un meuble inutile. C'est en 1983, donc, que le cher homme a souhaité s'en remettre au jugement de la jeune dame. Je veux parler de notre académie d'alors, afin de récompenser des actes vertueux perpétrés parmi les classes laborieuses. Or, qu'on le veuille ou non, nous voici parvenus au XXIe siècle, très exactement au jeudi 1er décembre 2005. Que les temps sont changés, comme disait Abner par la bouche de Racine. Bien plus que vous ne croyez, cher monsieur, bien plus que vous ne croyez. Et là, j'emprunterai Hamlet via Shakespeare, plus proche de l'actualité. The time is out of joint. Ce que l'on peut traduire par le temps est hors de ses gonds. J'irai jusqu'à dire que nous vivons un temps dévergondé. Et je vais vous l'avouer tout de go, prononcer aujourd'hui le mot vertu à quelque chose d'incongru, voire de vicieux. Cependant, passé cette première réaction, cette sorte de « ok » et qui ne peuvent provenir que du diable, m'aurait soufflé Julien Green, je vais m'évertuer à répondre au mieux aux désiderata de M. de Montyon. L'année dernière, à cette même tribune, c'est M. Angelo Rinaldi qui s'était livré, avec brio bien sûr, à ce périlleux exercice. « La vertu, c'est la loi du moment », avait-il déclaré, et il avait porté l'accent sur les pouvoirs édictés par les lois sociales qui donnent lieu à l'arbitraire. Ce que, de son côté, notre lointain et non moins illustre confrère, M. Jean de La Fontaine, avait résumé en un vers mémorable, « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Pour ma part, je ferai appel à Einstein. La vertu obéissant aussi et par nature aux lois de la relativité. À propos d'Einstein, je ne résiste pas au plaisir de vous livrer cette anecdote peu connue. Le savant, pour tenter de rendre sa fameuse théorie compréhensible à son boucher, et par là même au commun des mortels, lui avait expliqué « Monsieur Godinet, placez votre main sur un poêle durant une minute. Cela vous semblera une heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille durant une heure et cela vous semblera une minute. C'est cela, la relativité. » Mais revenons à notre sujet. De la relativité du bien et du mal et, par voie de conséquence, des vertus inhérentes supposées ou présupposées qui en découlent. Dans un récit dédié à Théodore de Banville et qui a pour titre « Les demoiselles de Bienfilâtre », Villiers de l'Isle-Adam nous en donne une parfaite illustration. Les demoiselles de Bienfilâtre, Olympe et Henriette, sont deux sœurs de joie, entendez péripatéticiennes selon le vocabulaire socratique. Ce métier, cette fonction serait peut-être plus juste, elle l'exerce avec une rigueur, une dignité, un allant qui font la fierté de leurs parents. Ceux-ci, gens intègres, élevés à l'école du malheur, occupent une loge de concierge. Un salaire de famine ne cesse de grogner leur père, tout en vidant une éternelle bouteille. Aussi, les chères petites se donnent-elles à corps perdu pour leur assurer une aisance modeste, certes, mais honorable. Deux bonnes filles, chacune sa spécialité, menant une vie droite, une vie parfaitement réglée et plus qu'aucun homme politique transparente. Toutes deux sont fort appréciées de ces messieurs au café La Nouvelle Athènes où elles tiennent leurs assises. Et que leur gain soit consacré essentiellement à la sauvegarde du patrimoine témoigne chez nos demoiselles de la pureté de leur cœur. Ce qui donne l'occasion, au miracle, à Villiers-l'Isle-Adam d'évoquer fort à propos notre baron. Des demoiselles de bien filâtre, écrit-il, on citait plusieurs traits dont les cendres de Montyon avaient dû tressaillir dans son beau cénotaphe. Comment peut-on faire tressaillir des cendres ? Un jour, elles avaient rivalisé d'émulation et s'étaient surpassées pour solder la sépulture d'un vieil oncle. Or, un autre jour, la plus jeune, Olympe, tourne mal. Elle tombe amoureuse. Oui, elle s'éprend d'un jeune étudiant, Maxime, beau comme un dieu, mais pauvre comme Job, sans emploi, lequel lui aussi en pince furieusement pour elle, Olympe. Celle-ci quitte la loge et va se réfugier dans la chambre de bonne de l'étudiant. Honte, ignominie, soudain le déshonneur s'abat sur la famille. Mademoiselle jette son bonnet par-dessus les moulins, après tout ce qu'on a fait pour elle, logée, nourrie, blanchie, habillée, chaussée. Malédiction, déchéance, elle qui hier encore tenait le haut du pavé. Henriette, la noble Henriette, plie sous le poids du fardeau. Elle met les bouchées doubles. Revient complètement épuisée, disloquée au domicile légal. Elle n'aurait jamais cru cela de sa frangine. Le soir, au souper de famille, le père et la mère baissent la tête, mangent en silence. Un amant pour le plaisir. Un godelureau qui ne lui donne pas un radis. Un matin, après plusieurs nuits blanches, monsieur de Bienfilâtre grimpe les 8 étages qui mènent à la chambre de Maxime et derrière la porte que celui-ci refuse d'ouvrir. « J'aimerais récupérer ma fille, » sanglote-t-il. « Je vous en prie, jeune homme, rendez-moi ma fille. » Monsieur, lui répond une voix mâle de l'autre côté de la cloison. « Je l'aime. Je l'aime et vous prie de m'accorder sa main. » « Misérable !» rugit Bienfilâtre avant de défaler les escaliers. « Misérable !» Je ne m'étendrai pas sur cette histoire édifiante et qui prête à réfléchir. « Vertu, où est ta victoire ?» Pour donner une caution à ce conte cruel, à la moralité douteuse, l'auteur s'en était remis à Pascal, pour lequel, au point de vue des faits, le bien et le mal sont une question de latitude. Ainsi, anciennement chez les Dinkas du Soudan, pour épargner aux vieillards les soucis de la décrépitude, leurs enfants les enterraient vivants. Les Chouquis de Sibérie les étranglaient avec une arête de phoque. Les Ojibwas du Canada leur fendaient le crâne d'un coup de tomahawk et, dans certaines contrées du Japon, les adolescents dévoraient les octogénaires pour s'assimiler leurs vertus, précisément. Dans un registre un peu plus gai, en Laponie, le chef de famille, après avoir parfumé sa fille, voire sa femme, à l'huile de baleine, la jetait en pâture aux voyageurs auxquels il avait accordé l'hospitalité. Malheur à celui-ci s'il n'honorait point la Lapone. Autre illustration non moins exemplaire, tirée cette fois de la Somme philosophique du professeur de mathématiques Georges Colomb, plus connu sous le nom de Christophe. Je veux parler de la famille Fenouillard. Souvenez-vous, Fenouillard, Agénor de son prénom, affublé de sa femme, Léocadie, et de ses 2 filles, Artémise et Cunégonde, en visite au Japon, est invité à une réception du Mikado. Le Mikado, assis sur son trône, immobile, impassible, statue vivante traversée par les siècles, s'offre à l'admiration de son peuple. Au bout d'une dizaine de minutes, Agénor, en grande redingote et toujours pris sautier, ne peut s'empêcher de lancer à la cantonade « Quand vas-tu de descendre de ton estrade, espèce de feignant ?» Phrase qui faisait tant de rire les habitants de Saint-Rémy-sur-Deule. Mais voici que sur le champ, il est saisi au collet, un officier nippon, lequel, malgré son teint jaune et ses yeux bridés, qu'il eût cru comprendre le gallo-romain, considère cette apostrophe comme une insulte, relevant du crime de lèse-majesté. Avec d'autres collègues aussitôt alertés, ils empoignent le fenouillard et le jettent peu après dans une case de bambou gardée par deux serpents. Ce qui fait dire aux prisonniers « comme les habitudes changent avec les latitudes », rejoignant en cela lui aussi et en toute innocence Pascal, « vérité en deçà du Fujiyama, erreur au-delà ». Enfin, je m'en voudrais de ne point évoquer aussi brièvement la pièce de Pirandello, « L'homme, la bête et la vertu », et qui semble offrir comme un écho au mot de Molière, « Vertu, où vas-tu te nicher ?» Une jeune et belle créature, délaissée par son mari, officier de marine, s'épanouit dans les bras de son amant. Voici qu'elle devient enceinte. Quelques jours après l'irréfutable constat, son marin de mari revient chez lui en terre ferme. C'est alors que l'amant, le meilleur ami du mari comme il se doit, revêt sa maîtresse de ses plus beaux atours, la maquille, l'encaustique, la rend désirable à l'extrême. Même au cours du dîner qui les réunit tous les trois, il parvient à faire absorber un puissant aphrodisiaque au phrygien navigateur, si bien que celui-ci remplit enfin son devoir conjugal. La petite créature humaine cachée dans le ventre de la pécheresse portera un nom légitime. L'honneur est sauf. Le mari, saisi par le plaisir tel monsieur le Troadec par la débauche, ne songera plus qu'à récidiver. L'amant abandonnera le premier rôle. La vertu qui avait débordé de son lit reprendra son cours naturel. Et c'est ainsi qu'Allah est grand, comme aurait dit le cher Vialat. Mesdames, messieurs, bien que le temps soit relatif, comme l'a si bien démontré Einstein, il n'est point pour autant extensible. Et suivant le conseil du dictionnaire de la conversation, je vous avais promis de ne point m'étirer. Aussi, je ne vous parlerai pas des trois vertus théologales, non plus que des quatre vertus cardinales. Je ne soufflerai mot d'Aristote. Toute vertu est un sommet entre deux abîmes. De Spinoza, de Paul-Jean Toulet, la vertu des femmes n'est que la maladresse des hommes. De Chesterton, de Rabindranath Tagore. Il était tellement occupé à faire le bien qu'il n'avait pas le temps d'être bon. De Grotuisens, ô vertu, au pluriel, vertu au pluriel, ô vertu mamelle du silence. Je ne me lancerai pas à vous entretenir des comédiens dont la vertu principale est le mensonge. Oui, de nous faire croire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. De même, je ne ferai aucune allusion aux puissances célestes répertoriées par saint Hilaréopagite, dont les vertus, précisément, tiennent une place de choix dans la volière du Seigneur, aux côtés des anges, archanges, chérubins, séraphins, trônes, dominations. Je ne soufflerai mot de la Grèce antique, surtout en présence de notre grande helléniste et très chère consœur, Madame Jacqueline de Romilly. Qu'il me soit permis cependant de souligner que si des héros comme Achille, Hercule, Ajax peuvent susciter notre admiration, de leur côté les dieux de l'Olympe ne donnent point des exemples évidents de moralité. Ils n'hésitent pas, Zeus en tête, à se métamorphoser en taureaux, en sangliers, en cygnes pour parvenir à leur fin, enlever des créatures de rêve délicieusement charnelles, telles Léda ou la belle Hélène ou encore la belle Europe. Enfin, si je me garde bien de me livrer à quelques commentaires sur le Traité des Vertus, ouvrage monumental de plus de 1000 pages dû au philosophe Vladimir Yankelevitch, il serait infiniment regrettable de ne pas vous en citer ces quelques lignes qui m'ont piqué au vif. Écoutez plutôt. « Moi qui ne suis pas vertueux, fait dire à Dieu Charles Péguy, Dieu n'a pas tant de vertus que nous, car c'est plutôt l'enfer qui en est pavé. Dieu n'aurait pas le prix Montyon. » Sic, chapitre 7, page 277, édition Bordas. Foin donc des gloses et des développements. Cependant, avant de briser là, permettez-moi de vous faire une déclaration citoyenne. En ces temps épais où règne la confusion des valeurs, le mensonge, la violence, le laxisme, ah, comme il devrait être remis à l'honneur ce vieil adage, on ne s'appuie que sur ce qui résiste, ou encore, l'obstacle est le père de l'homme. Le laxisme, la bêtise galopante, et où les médias, la télévision en particulier, donnent droit de citer le plus souvent à la vulgarité, à l'infantilisme, à la pornographie considérée comme un des beaux-arts, alors oui, vive la vertu. Comme l'a déclaré Sancho Panza un soir de grand vent à son maître, le chevalier à la triste figure, « L'homme est comme Dieu l'a fait, et bien souvent pire. » Les vertus ne viennent-elles pas au secours de l'homme pour éviter le pire précisément, afin qu'il puisse vivre en harmonie avec ses semblables ? J'irai jusqu'à vous confier que parmi celles-ci qui s'épaulent et s'enrichissent mutuellement, je placerai au premier rang l'humilité, pierre de touche à mon sens de toutes les autres vertus. En découle la charité, le pouvoir de dire non, selon saint Paul. Le courage, superbement magnifié ici, il y a peu, en l'honneur de notre chancelier, M. Pierre Messmer. L'espérance et autres petites sœurs. Toutefois, c'est l'une d'elles des plus modestes qui, en ce moment même, me va droit au cœur, la patience. La patience dont vous avez fait preuve, mesdames et messieurs, en m'écoutant discourir tant bien que mal sur ce noble sujet. Je ne puis que vous exprimer ma gratitude.
Vous venez d'entendre la séance solennelle de l'Académie française pour sa rentrée en 2005.